Tamani, toutes les voix du Mali.
Studio Tamani, voici nos informations en français.
Bonjour et bienvenue dans ce journal du 17 février 2016. Les titres. Le bilan des victimes de l'attaque de la base de la MINUSMA à Kidal s'est encore alourdi hier, 4 jours après l'agression terroriste. Une casque bleue guinéenne a succombé à ses blessures, portant le nombre des victimes à 7, dont 3 femmes. Toujours pas de dispositif sécuritaire particulier à Kidal. Selon un habitant de la ville, il affirme cependant que la MINUSMA a renforcé la protection autour de son camp pour contrer d'éventuelles attaques kamikazes. Les élus de la région de Mopti alertent le Premier ministre sur la recrudescence de l'insécurité dans leur région. Lors d'une rencontre lundi, ils lui ont demandé de revoir le dispositif sécuritaire et d'impliquer la population dans la sécurisation des villes. Bousculade de Mina, le collectif des familles des victimes exige que la lumière soit faite sur le drame. Ils appellent les autorités saoudiennes à prendre des mesures pour l'indemnisation des disparus. Fatma Tatogola pour la présentation. Le bilan des victimes de l'attaque de la base de la MINUSMA à Kidal s'est encore alourdi hier. Désormais, l'attaque a fait 7 victimes, toutes guinéennes, dont 3 femmes. Sekou Gajougou nous en dit plus.
7 casques bleus du contingent guinéen de la Force des Nations Unies au Mali, dont 3 femmes, ont été tuées lors de l'attaque djihadiste du 12 février dernier. Ce bilan a été communiqué à l'AFP par une source militaire de la MINUSMA. La dernière victime est une femme, elle avait été transportée très grièvement blessée à Dakar. Ce décès porte à 3 les victimes de l'attaque au sein du contingent féminin. Le bilan précédent faisait état de 6 tués parmi les soldats guinéens sans indication de sexe et d'une 30aine de blessés. Les corps des casques bleus tués seront rapatriés ce mercredi accompagnés par le chef de la MINUSMA, Mohamed Saleh Anadif. C'est la première fois que le représentant de la mission de l'ONU accompagnera dans leur pays d'origine les dépouilles de casques bleus tombés au Mali. L'attaque qui a visé le camp de la MINUSMA a été revendiquée par le groupe djihadiste en Sardine de l'ex-chef rebelle Touareg Iyad Agali.
Selon un habitant de Kidal, le dispositif sécuritaire n'a pas changé dans la ville, excepté la MINUSMA, qui a renforcé la protection autour de son camp pour contrer d'éventuelles attaques. Ils estiment toutefois que la population vague à ses occupations, malgré le climat lourd qui prévaut dans la cité. Écoutons les témoignages de cet habitant de Kidal qui a requis l'anonymat. Il a été joint par Sekou Gadjogo.
Ça ne surprend pas, vu l'ampleur de la déflagration. Déjà, moi, je suggérais qu'en réalité, il y a plus... des victimes, ce qui a été annoncé, les gens, vu aussi l'état des blessés qu'il y avait, il y avait 7 qui étaient très très gravement touchés. Donc on savait que tôt ou tard, peut-être qu'ils allaient succomber tous ou quelques-uns d'entre eux. L'annonce de la 7e victime, on ne l'a pas si, mais ça ne se fera pas non plus. Il n'y a aucune évolution, c'est au niveau de l'aménagement qu'il y a eu une évolution. Ils sont en train de revoir les failles qui ont permis aux véhicules de rentrer dans les camps pour remédier à ça, mais au niveau de la ville, aucun dispositif n'a été pris. À chaque fois qu'il y a ce genre d'attentat, ça affecte la population au niveau plus psychologique et de la... mais ça n'empêche pas les gens de gérer leurs affaires quotidiennes.
Réagissez à toutes ces informations sur la page Facebook ou le compte Twitter du Studio Tamani. Face à la recrudescence de l'insécurité dans la région de Mopti, les députés de la localité ont rencontré lundi le Premier ministre Modibo Keïta pour l'alerter. Ils lui demandent de revoir le dispositif sécuritaire au niveau de la région et d'impliquer aussi la population dans la sécurisation des villes. Issa Togo est député élu de Koro. Il a été joint par Alousena Batouré.
Notre rencontre, c'était pour peaufiner une stratégie régionale quand même pour pouvoir sécuriser la population et les biens. De façon globale, la réunion s'est bien passée et que les dispositions seront prises tant au niveau de la population qu'au niveau sécuritaire, au niveau de l'État, afin que les populations puissent vivre tranquilles. Et aussi, pourquoi pas aussi ne pas échanger à un niveau de ne impliquer toutes les populations à la base pour que les choses aillent mieux, quoi. Nous, on souhaite que la population s'approprie de ces problèmes sécuritaires. Dans tous les cas, on ne pourra jamais être efficace tant qu'elle ne s'implique pas. C'est que nous pourrons la population, sans qu'il y ait une stigmatisation de part et d'autre, que chacun soit sensibilisé, soit informé du danger de la chose, et que c'est, dans tous les cas, c'est les parents qui sont de l'autre côté, soit avec du côté du gouvernement ou soit du côté des intégrés. Il faut que les gens prennent langue pour que vraiment tout ça s'arrête, quoi. Donc ensemble, il faut qu'on se donne la main pour que tout cela cesse.
Le collectif des familles des victimes exige que la lumière soit faite sur les circonstances du drame. Selon les parents des disparus, des zones d'ombre existent sur les causes de la catastrophe. Ces responsables appellent les autorités saoudiennes à prendre des mesures pour leur indemnisation. Maître Marcel Sekaldi, l'un des avocats du collectif, est au micro de Sekou Gadjogo.
C'est un principe de droit international. Si vous voulez, c'est un principe moral et un principe de droit. Toute faute doit être réparée. Ce qui s'est passé à Mina résulte d'une défaillance des services de l'État saoudien qui étaient sur place. Défaillance humaine, erreur humaine, omission, négligence, manque de discernement. Peu importe, l'État est comptable des fautes commises par ses préposés. Pour l'instant, nous allons constituer les dossiers avec la première pièce essentielle, l'acte de décès. Nous allons bâtir les dossiers et si le gouvernement saoudien refusait, non pas de s'expliquer, mais de nous dire ce qui s'est passé, d'arrêter le principe d'une juste indemnisation, eh bien nous demanderons juridiction nationale, c'est-à-dire malienne d'une part, et aux juridictions internationales, l'exécution sur le territoire de l'Union européenne d'une décision rendue par un tribunal malien pour obtenir l'exécution forcée de ces indemnisations.
Des sacs contenant de fausses vignettes de voitures ont été saisis la semaine dernière par des agents des douanes de l'aéroport de Bamako. Suite à cette saisie, la police a procédé à des arrestations. Selon le procureur chargé de l'affaire, les investigations vont bientôt prendre fin. Boubacar Sidiki Samake, procureur du tribunal de grande instance de la commune du district de Bamako, il est au micro de Awa Berté.
Il y a eu des interpellations. Toutes ces personnes seront présentées au juge d'instruction, donc qui va apprécier s'il y a lieu de les détenir ou non. Il y a les infractions douanières, puisque c'est suite constatation douanière qu'on a retrouvé ces fausses vignettes. Il y aura des poursuites pour faux et usage de faux qui constituent des infractions criminelles. Après l'instruction de l'affaire, il est possible que elle soit jugée. On peut faire des estimations, on peut faire des évaluations. On parle déjà de 623 millions de francs CFA, si je ne m'abuse, par rapport à la quantité de vignettes qui a été découverte pour le moment. Mais il est possible qu'on en découvre d'autres. Donc ce sont les investigations qui sont en cours. On saura si les personnes qui sont interpellées pour le moment en sont les auteurs, puisqu'ils sont présumés innocents. Et en ce moment, on pourrait évaluer éventuellement le manque à gagner pour l'État.
Le ministre des Mines a visité le site minier de Fekola dans la région de Kaï dimanche dernier. Ce nouveau gisement minier a été développé par la compagnie B2Gold, une société de droit canadien basée à Vancouver. Ce projet aura un impact important sur les populations autochtones. Il sera également une source génératrice de revenus. Écoutons Mamadou Chérif Diallo, maire de la commune rurale de Kenyeba.
L'avantage dans le développement économique, c'est d'abord l'emploi. L'action du développement communautaire ne commencera que lorsque l'usine va rentrer en production. Mais également, ça devient un pôle d'attraction. D'après leurs prévisions, au moment de la construction, ils vont recruter environ 1100 personnes. Mais après la construction, pour l'emploi proprement dit, l'usine n'emploiera que 840. Mais par rapport au recrutement, il y a des sérieux problèmes entre les gens de la mine et la population et la jeunesse. Parce que vous savez que nous sommes un milieu où généralement il n'y a pas toutes les qualifications. Comme toutes les autres mines, la mine détruit l'environnement. On a à mettre en place une commission minière qui suit les engagements et qui suit également comment pourrons-nous gérer les impacts environnementaux et la restauration du sol.
Studio Tamani, financé par l'Union européenne et les gouvernements de la Suède et du Royaume-Uni.
À présent, les échos de nos régions. Près de 170 milliards de francs CFA financés par la BAD pour l'aménagement du corridor routier Bamako-Zantibourou-Colindiaba au Mali et Bundjali-San Pedro en Côte d'Ivoire. Le lancement des travaux a eu lieu hier à Sikasso. L'objectif est de renforcer l'intégration sous-régionale par la libre circulation des personnes et des biens. Plus de 200 paysans de Koutiala ont pris connaissance hier du bilan des activités du projet Feed the Future de l'ONG catholique Relief Service. Selon les responsables, l'objectif est d'améliorer la connaissance et l'accès des producteurs aux technologies de mil et du sorgho afin d'augmenter la productivité. Le projet a été financé par l'USAID. Des agents sanitaires de Bourem ont été formés sur le programme élargi de vaccination. Cette formation vise à renforcer leurs connaissances en matière d'intrants et de vaccins. Cette activité a été financée et exécutée par le CSRF de Bourem. Les enseignants de l'école du centre de Koulikoro observent depuis hier une grève de 72 heures. Ils réclament la démolition des barres situées devant l'école. Selon les responsables des syndicats, cette grève fait suite à l'échec d'une série de pourparlers avec la mairie et les propriétaires des barres. C'est tout pour cette édition. Dans un instant, le magazine.